France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Saskia Deville.
Bonjour Emiliano González-Toro.
Bonjour Saskia Deville.
Bienvenue dans Musique Matin. Vous êtes ténor, chef d'orchestre. Vous êtes né à Genève en 1976. On a le plaisir de vous recevoir aujourd'hui à l'occasion de la sortie de ce disque baptisé Cozzolani Vespro, donc les vers d'une certaine Chiara Margherita Cozzolani. On va en parler évidemment de cette compositrice, mais j'aimerais tout d'abord qu'on parle de votre passion pour cette période de l'histoire de la musique, le Seicento italien, berceau de l'art lyrique. Nous sommes au 17e, près de Milan.
Tout à fait.
C'est un peu ce qui a marqué votre début.
On est au 17e près de Milan, une période absolument incroyable. On a souvent l'occasion de parler de toute la musique de Mantoue ou de Venise, évidemment grâce à tous les grands maîtres qui ont fait la gloire de cette musique. Mais il y a aussi une niche absolument merveilleuse de musique, et notamment musique féminine, dans tous les couvents, et notamment Santa Radegonda, le couvent de Chiara Margherita Cozzolani. Au XVIIe, il y avait des chœurs de nonnes réputés pour leur immense qualité vocale et aussi de composition, à tel point que même cette fameuse Cozzolani a été éditée, je crois qu'il avait la trentaine, quarantaine, c'est ce qui est très très rare déjà à l'époque de se faire éditer, et en plus pour une femme, et en plus pour une religieuse, donc c'était dire la qualité qu'on octroyait en fait à cette musique qui sortait de ces couvents, et c'était vraiment de notoriété publique à l'époque que cette musique a cette époque, à Milan, était de très haute qualité.
Et on a déjà pu l'entendre un petit peu plus tôt dans l'émission avec un premier extrait, on va en écouter un autre, mais pour ce Seicento italien, c'est un répertoire qui a accompagné vos débuts, je pense que ça a vraiment marqué une certaine période, vous, dans votre parcours de chanteur.
Oui, absolument. Je débutais au conservatoire avec ça, même si j'étais pas au conservatoire de musique ancienne, mais ma professeure à l'époque aimait beaucoup cette musique, elle nous la faisait beaucoup travailler. Ensuite, mon parcours avec Michel Corbeau, avec Gabriel Garrido, avec les rencontres aussi avec Christophe Rousset, tout ça, ça m'ont permis de m'approcher un peu de tout ce répertoire qui a finalement m'a accompagné pendant presque 20 ans de carrière. Et donc, oui, effectivement, c'est quelque chose que j'aime énormément et qui me passionne toujours autant, au point d'avoir envie maintenant d'en prendre la responsabilité d'essayer de faire quelque chose par moi-même.
Et de découvrir des compositeurs, compositrices ici en l'occurrence. Est-ce que c'est un répertoire facile à chanter ?
Oui et non. D'un point de vue de la tessiture, on peut évidemment considérer assez facilement que c'est pas très exigeant parce que c'est toujours des tessitures relativement centrales, que ce soit pour les sopranos ou pour les ténors. Mais stylistiquement, il y a énormément de choses à faire, et si on a envie d'être un petit peu scrupuleux sur la façon de chanter cette musique-là sans en faire ou bien trop ou pas assez, c'est un juste équilibre. On parlait à l'époque de médiocrité, et cette médiocrité n'était pas quelque chose de péjoratif, au contraire, c'était de trouver un peu, comme dans une recette de cuisine, le juste équilibre des assaisonnements, et en fait de réussir. La vraie virtuosité, c'était de savoir comment est-ce qu'on interprète cette musique avec la juste dose d'un petit peu tout.
Et quels sont les ingrédients alors?
C'est une recette secrète et mystérieuse. Non, ce qu'il faut surtout, c'est déjà une notion du texte, de savoir exactement ce qu'on raconte, parce que tout part du texte dans cette musique. Une notion du théâtre, et aussi surtout de faire attention au contexte dans lesquels ces œuvres ont été écrites, ce qui nous permet aussi d'apporter la dose nécessaire des affects. Pour prendre un exemple très concret, dans Orfeo, si on imagine que cet Orfeo est créé à l'époque uniquement par des voix masculines, y compris par des castrats, on peut imaginer que on peut pas aller trop loin dans la surinterprétation des affects, notamment dans la rencontre entre Eurydice et Orfeo, puisque forcément se pourrait créer un quiproquo en ayant deux hommes en face à la création. Peut-être que ça aurait pu être inconfortable. Et au final, trouver cet équilibre entre montrer une affectation mais ne pas aller trop loin, c'est surtout ça. Et en même temps, après, forcément, il y a tout l'aspect de la virtuosité technique, des lignes de chant extrêmement longues, et puis après toutes les vocalises extrêmement rapides. Ça, c'est à travailler, évidemment.
Let us. ciel. Ad confitendum, ad confitendum Domini
Premier extrait de ce nouveau disque qui paraît demain chez Naïve, Vèpres, psaume, pardon, de Chiara Margarita Cozzolani, ici interprétée par l'ensemble Idjamali et notre invité Emiliano González Toro, une vraie redécouverte, cette compositrice. Elle composait pour les hommes, pour les femmes, uniquement pour les femmes?
Alors, en principe, elle composait pour les femmes de son couvent. Mais on sait, on peut supposer que ça a été joué pour des occasions spéciales. On ne peut pas imaginer que c'était forcément les nonnes du couvent qui participaient à ces concerts, mais comme ça a été édité, et comme ça a été édité également en voix mixte, on peut imaginer que c'était joué pour des occasions spécifiques.
Comme lesquelles, par exemple?
Des fêtes pour un prince, ou éventuellement des
occasions
religieuses,
voilà,
par exemple, vraiment des... Mais ça reste assez flou, malheureusement. Malgré toutes les recherches qu'on a faites sur cette période, on a de la peine à avoir beaucoup de précisions sur la raison réelle de ces concerts-là. Mais on sait que ça a été joué à voix mixte, mais à l'époque, c'était très adapté. C'était une musique qui était vraiment adaptée systématiquement. On sait que dans les couvents, il y avait que des femmes, évidemment. C'était absolument hors de question de mélanger avec les voix d'hommes et de rencontrer des hommes, d'ailleurs. Alors, même si on sait aussi que c'était un petit peu contourné de temps à autre, on pouvait les écouter chanter dans une autre pièce, invisible, comme un peu des anges comme ça qui travaillent. Mais cette musique-là était spécifiquement composée au départ pour les femmes. Après, quand on regarde ces vêpres en particulier, on se rend compte qu'évidemment, toute l'écriture, si les basses sont chantées par des altos et les ténors sont chantés par des sopranes, avec les basses et les altos, ça fait deux fois un peu des lignes qui se marchent dessus et l'équilibre strict des voix est un petit peu difficile à trouver. Ce qu'on retrouve immédiatement avec un spectre beaucoup plus large, avec un vrai cespier des basses et des sopranes, avec le spectre complet, basse, alto, ténor et soprane.
Et ce qui est assez intéressant aussi avec ce genre de répertoire, c'est qu'on se pose énormément de questions, on avance effectivement, parce qu'on ne sait peu de choses finalement sur Chiara Margarita Cozzolani, compositrice religieuse italienne, donc née en 1602, morte aux alentours de 1676, en Italie, donc contemporaine de Cavalli, Strozzi, Ferrari, vous l'avez dit. Ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant à l'écoute de ce disque, Emiliano González Toro, c'est le traitement des voix qui est extrêmement lumineux, extrêmement dynamique. On a vraiment de très 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 belles lignes pour les solistes.
Ouais, il y a à manger et à boire pour tout le monde, comme j'aime bien dire. Quand j'ai contacté chacun de mes collègues, parce qu'évidemment, faire un casting, chercher les chanteurs et imaginer quelles voix vont bien aller avec les autres, c'est tout un travail d'anticipation. Et je suis très heureux d'avoir pu travailler avec une équipe absolument formidable à tous les postes et justement d'essayer de construire et d'entendre quand on travaille cette musique, quelle voix on a envie d'entendre pour faire ça. Il faut un petit peu de corset, il faut un petit peu de douceur, il faut des gens qui soient capables aussi de détimbrer ou de temps à autre de chanter avec un petit peu plus de vaillance. Et c'est important. Et aussi cette fameuse capacité d'écoute à travailler en madrigaliste, en fait, à 10 chanteurs, à 8 chanteurs, à 5 chanteurs, de pas toujours tirer la couverture à soi et de pouvoir travailler ensemble dans ce type de musique-là, c'est primordial.
Vous avez travaillé avec énormément d'ensembles, hein, Emiliano González Toro, en tant que chanteur. Hein, je pense à l'ensemble Pygmalion, le concert d'Astrée, la Capella Méditerranée, l'Arpeggiata, le concert spirituel, etc., etc. La liste est impressionnante. À quel moment votre envie de créer votre propre ensemble vous est venue et pour quelle raison?
En réalité, c'était quelque chose qui germait dans mon esprit depuis un petit temps. Après, c'est un peu comme l'opéra le dit, l'occasion qui fait le larron. Et j'avais envie, à un moment donné, il y a eu une espèce de nécessité absolue de monter un projet. Ce projet, c'était Orfeo. Et on était en train de discuter de ce projet avec mon ami Thomas Dunford. Et Thomas aussi avait très envie de monter ce projet-là. Et du coup, l'idée de commencer à travailler pour nous-mêmes et par nous-mêmes a commencé à germer à ce moment-là. Évidemment, ça prend toujours un petit peu de temps. Je dirais c'est à peu près il y a 2 ans qu'on a commencé à réfléchir là-dessus. Et les choses prennent un petit peu de temps à se monter. Et puis voilà.
Et puis on y arrive avec la sortie d'un premier disque demain sous le label Naïf. En voici un deuxième extrait.
O Maria, tu sponsa, tu virgo, tu mater, tu sponsa, tu virgo. Tu spiritus sancti sacrarium, oh Maria, o advocata, advocata, Advocata nostra, respice, respice, respice in nos. Oculis, misericordiae. O clementissima, o clementissima regina. Respice, respice in nos, in hoc lacrimarum gementes, et flentes respice in nos qui suspiramus, suspiramus a te clamantes. Clamamus a te,
Dulcis, extrait de ce motet de Chiara Margherita Cozzolani, un extrait de ce disque qui paraît demain sous le label Naïf. Notre invité Emiliano González Toro est là pour nous en parler, bien évidemment. Cela dit, quel autre répertoire vous paraît adéquat pour votre voix?
C'est toujours une question un peu délicate parce que c'est quelque chose qui évolue avec le temps. J'ai toujours eu une grande conscience de ce que ma voix avait envie de faire et de mon instrument en réalité. J'étais instrumentiste à l'époque, j'étais oboïste, donc j'ai aussi ce travail d'instrumentiste qui me permet d'avoir un petit peu de recul et de pas avoir envie d'aller dans des zones qui ne me conviennent pas ou qui ne mettent pas en valeur ma voix ou mon instrument. Et jusqu'à présent, je suis resté dans un répertoire baroque, jusqu'à Vivaldi, Handel, parfois Mozart dans certaines incursions, Monteverdi évidemment. J'ai fait des incursions un peu plus tardives dans des rôles dits de caractère ou des choses un petit peu plus drôles ou dans l'opérette même. En revanche, maintenant, à presque 43 ans, je sens qu'il y a aussi quelques autres rôles qui m'appellent. J'ai beaucoup fait des rôles de travesti pendant presque 20 ans. Et là, justement, Ulysse, Orfeo, d'ici 2 ans, on est en train de finaliser ça, probablement un Idoménée de Mozart.
D'accord.
Donc, un peu dans la même veine que mon professeur de l'époque, Anthony Rolf Johnson, à qui je n'ose pas m'identifier parce que pour moi, c'était ma référence absolue, mais en tout cas, mon inspiration d'un point de vue artistique. J'ai pas la velléité de travailler trop dans le répertoire anglophone dans la mesure où je ne suis pas anglophone, je peux donc difficilement avoir envie de mettre en danger comme ça, parce que je pense qu'il faut vraiment avoir une envie de travailler dans une certaine langue. Et je pense que c'est important de respecter les langues et parfois de pas toujours aller dans quelque chose qui nous est trop étranger.
Alors vous qui êtes friand de découvertes, Emiliano González Toro, et vous qui êtes hispanophone, vos parents sont chiliens, est-ce que vous avez été vous plonger dans le répertoire de cette époque du XVIe siècle au
Tout
Chili?
Tout à fait. Ah, du Chili, non.
Oui.
Ah non, Pas encore.
Pas
c'est
encore.
Une piste que nous explorerons.
L'époque des conquistadors espagnols
fait,
qui sont arrivés.
Le siècle d'or, tout à fait. Il y a bien beaucoup de choses. Mais c'est des projets qui sont en général extrêmement ambitieux parce qu'il y a beaucoup de monde en principe sur ce type de projet-là.
C'est vrai?
Ouais.
Tant que ça.
Ouais.
Là-bas,
en général. Là-bas. Ah, j'en sais rien, mais en tout cas, sur la musique chilienne, je peux pas vous dire, j'ai pas encore travaillé là-dessus, mais sur la musique latino-américaine du siècle d'or, il y a toujours des projets assez gargantuesques avec des chœurs immenses, parfois double, triple chœur et orchestre énorme. Donc ça demande des infrastructures un petit peu costauds.
Mais oui, mais il faut y aller, hein, Emiliano González.
On ira.
En attendant, eh bien, vous fêterez vos 43 ans sur scène, ce sera très prochainement, le 28 mai, avec ce fameux Orfeo de Monteverdi au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Vous incarnerez donc ce rôle-titre et vous serez également à la direction. J'aimerais qu'on en dise quand même quelques mots. Il y a une bien belle équipe aussi à vos côtés, Emiliano González Toro.
Bah, j'ai la chance de pouvoir compter sur beaucoup de collègues et amis que je respecte énormément et que j'ai pu créer aussi un réseau d'amitié depuis toutes ces années avec des gens d'immense qualité musicale et humaine. Et quand je les ai appelés, ils ont tous répondu présent avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme. Et je suis très heureux et très fier de pouvoir travailler avec chacun d'entre eux parce que chacun d'entre eux est vraiment une merveille. Et hier, on a commencé déjà les premières lectures et vraiment, je suis très très heureux du casting à tous les postes. C'est un travail qu'on fait vraiment collectivement avec Thomas Dunford. C'est pas juste moi qui vais diriger. On travaille ensemble depuis presque un an et demi, en tout cas musicalement sur ce projet, assez activement. Lui sur les orchestrations, sur le travail aussi instrumental, moi avec les voix. Et puis on commence petit à petit à construire ce projet depuis hier et toute cette semaine. Et donc c'est un travail vraiment bicéphale.
Et effectivement, sur scène et dans la fosse, on pourra entendre Mathias Vidal, Eva Zajcik, Léa Desandré, Jean Rondeau, Pierre Gallon, Thomas Dunford, que vous venez de citer notamment. Ça, ce sera donc pour le 28 mai au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Et pour les plus impatients, on pourra vous entendre demain soir. On en parlait lundi avec notre invité Raphaël Pichon de cette messe en si mineur de Bach dans laquelle vous chanterez, Emiliano González Toro. Ce sera demain soir à la Philharmonie de Paris avec l'ensemble Pygmalion. Merci beaucoup d'être venu nous voir.
Avec Emiliano plaisir, González-Toro. Merci pour l'invitation.
Ce fut un plaisir.
Merci.
À réécouter sur francemusique.fr.